je me présente, donc je suis Geneviève Préjard. J'ai passé 30 ans à Saint-Dex comme intervenante dans un groupe en métallurgie, puis dans le groupe CHSCT, donc qui faisait des expertises CHSCT. Mais avant de revenir sur la genèse de notre travail, qu'on a appelé d'abord « Chronique et récit d'une expertise engagée », il faut peut-être rappeler ce que c'est que cette expertise, parce que tous ici ne savent peut-être pas en quoi ça consiste finalement. Et donc je vais rappeler les grandes lignes de ce qu'est l'expertise auprès des représentants du personnel. Et pour ça, je m'appuie sur les derniers textes du droit du travail qui, depuis l'intervention, depuis les ordonnances Macron, ont redéfini l'expertise. Donc même si finalement ce qui a été créé par la loi de 46 et modifié par les lois Auroux reste très présente. Hein. Donc en quoi consiste l'expertise, cette démarche? Donc dans les entreprises comptant plus au moins 50 salariés, le CSE, donc aujourd'hui ce terme a remplacé le terme de comité d'entreprise, peut décider de recourir à un expert comptable de son choix. Possibilité pour eux, dans le cadre de leurs prérogatives économiques, d'être informés et consultés sur la situation de l'entreprise. Le CSE donc, peut se faire assister en amont de 3 consultations récurrentes qui sont aujourd'hui bien cadrées. Donc, consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Donc trois consultations qui interviennent pour le comité d'entreprise chaque année, pour lequel elle peut ou pas, bien sûr, recourir à un expert. Donc pour cela, effectivement, Tous les documents nécessaires à la compréhension à la fois de la stratégie, des comptes et de la situation de l'entreprise sont exigés des directions. Mais il y a d'autres cas où l'expert comptable du comité d'entreprise... Enfin, j'ai du mal à parler du CSE, je parlerai du comité d'entreprise, tant pis. Peut être désigné lors d'une opération de concentration. Lorsque le CSE donc fait... lance un droit d'alerte. Tout le monde sait ce que c'est qu'un droit d'alerte. Quand la situation de l'entreprise l'exige, présente des inquiétudes. Dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, à condition qu'il y ait au moins 10 salariés, et dans le cadre d'une offre publique d'acquisition. Donc ça, c'est le deuxième volet des missions de l'expert comptable. Et enfin... il peut faire appel à un expert formé CHSCT, bien que le CHSCT n'existe plus qu'une commission de santé au travail au sein de des CSE, donc en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais en tout cas un risque grave avéré, et en cas d'introduction de nouvelles technologies ou bien une réorganisation des événements qui peuvent changer et modifier les conditions de travail et de sécurité des salariés. Et enfin, et ça vous voyez, c'est un sujet que nous ne connaissions pas précédemment, nous les anciens, l'expert comptable peut être nommé afin d'apporter une analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d'un accord de performance ou d'un accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, c'est plutôt un appui aux organisations syndicales qui, dans la définition des missions de l'expert, apparaît comme une nouveauté. Et aussi, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Un autre aspect donc, de l'expertise, c'est que cette expertise est en général prise en charge par l'employeur. Bien que dans certains cas, désormais, notamment lorsqu'il s'agit de la consultation sur la stratégie de l'entreprise, le CSE doit piocher dans son budget de fonctionnement à hauteur de 20% de la mission. Voilà, donc après les, dans la pratique, donc pour les besoins de sa mission, l'expert a libre accès dans l'entreprise. Une image me vient à la tête parce que je me souviens que Frédéric a été poursuivi par le chien de garde de l'entreprise autrefois. Donc maintenant, l'accès à l'entreprise est tout à fait dans les textes. C'est un aspect très important. Donc, l'employeur doit fournir les informations nécessaires à la mission et ces informations sont définies par l'expert. Et donc, l'expert du comité d'entreprise, du CSE, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, c'est écrit dans les textes. Voilà, alors, concrètement, la mission de comment se passe une mission? Eh bien, en général, il y a une réunion avec le CSE pour définir les axes de la mission, c'est-à-dire faire en sorte que la mission réponde aux préoccupations du moment du CSE. Ensuite, l'expert travaille, exige les documents, ça ne se passe pas toujours facilement, il faut quelquefois aller en référé pour aller obtenir les documents qui vont bien. Ensuite, l'expert produit un rapport, plus ou moins gros, en tout cas une belle note de synthèse, et qui donne lieu donc à un exposé en réunion préparatoire avec le CSE, et ensuite donc une plénière où le rapport et ses conclusions servent de base à un échange entre les salariés et leur chef d'entreprise. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'est l'expertise. Alors, notre travail. L'association des anciennes syndex s'est créée, je suis la présidente, a été créée en 2015 et tout de suite, effectivement, comme le disait Dominique, nous avons inscrit dans les statuts la préoccupation de travailler sur la mémoire de l'entreprise, la mémoire de syndex. On a pensé qu'il était important que les salariés actuels connaissent les origines de leur société, qu'ils sachent comment dans les années 68-70, quelques experts comptables engagés ont réveillé, avec la CFDT d'ailleurs, l'application d'une loi votée 23 ans plus tôt, qui donnait donc aux élus, les comités d'entreprise, la possibilité de se faire assister d'un expert comptable. Parmi les créateurs, vous avez ici plusieurs d'entre eux qui se cachent. Donc nous avons donc, en tant qu'anciens de syndex, la chance de pouvoir travailler avec ceux qui ont, plusieurs de ceux qui ont effectivement fondé syndex. Donc, ce que nous avons d'abord fait dans cette perspective de mémoire, c'est d'organiser une table ronde en octobre 2019 qui a justement réuni ces acteurs de cette initiative qui est à l'origine de la société syndex. Les intervenants de la première heure sont venus expliquer comment ça s'est passé. Et tout ce récit, nous avons eu le souci de le replacer dans le contexte économique et syndical, c'est-à-dire que nous avons demandé à Pierre Héritier de nous parler du contexte syndical de l'époque, et tandis qu'Annette Levert nous a parlé de ce qui se passait dans le monde syndical de façon plus sociologique, disons. Bon, donc à la suite de ça, d'ailleurs cette table ronde a fait l'objet d'une production de texte. Je ne crois pas qu'elle soit sur notre site, mais je pense qu'on pourrait la mettre sur notre site parce que c'est vraiment intéressant. Hein? Bon, on verra. Donc, à l'issue de cette table ronde, nous avons donc décidé de continuer le travail et cette fois de prendre beaucoup de recul pour parler et pour travailler sur l'histoire de l'expertise en repartant de ses débuts, enfin de sa création depuis le début. Donc, nous avons retenu la même méthode, des contributions écrites dans les aspects juridiques, professionnels, le contexte social et syndical qui ont marqué les différentes étapes. Alors, c'est vrai que l'histoire, comme on le disait tout à l'heure, de l'expertise est longue. Donc, pour travailler, nous avons distingué deux périodes. La première, de la création des comités d'entreprise en février 1945 jusqu'à l'adoption des lois Auroux, et ensuite des lois Auroux jusqu'au milieu des années 2010, parce qu'au-delà des années 2010, nous autres n'étions plus dans l'entreprise et nous n'avons pas vraiment vécu les conséquences de la loi travail sur le métier dans l'entreprise. Donc, on s'est arrêté au milieu des années 2010. Alors, je vais brosser rapidement, pour vous donner une vue d'ensemble, les grandes lignes des interventions des quatre contributeurs de ce texte. Il faut savoir que ces textes, ils ont été écrits par eux, mais aussi discutés. C'est-à-dire que cela nous a occupés pendant pas mal de temps la période du Covid, qui nous a permis de nous retrouver régulièrement par visio dans cette période particulière. Voilà, alors, Henri-José Legrand, donc, qui est ici et qui est avocat et compagnon de route de Saint-Dex depuis le début des années 70, reprend donc dans son travail l'histoire de l'expertise à travers les textes législatifs. Il explique comment l'expertise auprès des comités d'entreprise trouve son origine dans la transposition législative d'une partie du programme du Conseil national de la Résistance. Donc, historiquement, l'expertise est liée à l'attribution au CE d'un pouvoir consultatif en matière économique. Ensuite, Henri-José relate, dans la deuxième période de notre travail, la période de consolidation difficile de ces dispositions, donc par une jurisprudence abondante, compte tenu de la résistance patronale à l'application des nouveaux textes. Puis, des textes qui sous-tendent, je veux dire, la diversification des expertises sur les comptes prévisionnels, des expertises sur droit d'alerte, sur concentration, et aussi, ensuite, non seulement auprès des CE, que des IRP européennes, comités européens, comités des sociétés européennes, jusqu'après les expertises CHSCT qui effectivement se développent à un certain moment. Donc, comme je disais, l'histoire juridique qui quand même sous-tend cette expertise, c'est vraiment le... On voit bien avec les lois Macron que cette expertise pourrait très bien disparaître. Là, elle a été recadrée, mais on pourrait très bien... Il y a pas une fragilité, mais tout de même quelque chose de cet ordre. Donc... Ensuite, j'évoquerai le travail de Michel Capron, qui est économiste et qui fut le tout premier salarié de Saint-Dex dans les débuts des années 70. Donc, il analyse l'évolution de l'exercice de ce droit à l'expertise, la formation de la profession, le développement du marché qui s'est créé, notamment après les lois Roux, les outils mobilisés, notamment au regard des objectifs poursuivis. Donc, il analyse d'abord dans le contexte social de l'après-guerre la confrontation des acteurs sociaux sur le rôle de cette institution comité d'entreprise. Lutte des classes, collaboration de classes. Donc, ça, c'est la première partie un peu. Puis ensuite, comme la mise en place de la normalisation comptable va outiller l'analyse macro et microéconomique et donne accès à une certaine vérité des comptes de l'entreprise, à la compréhension du système capitaliste, finalement, grâce à ces outils, des experts comptables associés à des économistes et des statisticiens, ceux-ci, en 1968, vont se saisir de ces outils et changer la conception de l'expertise. Ils donneront naissance, donc, à Saint-Dex en 1971. Dans la deuxième partie de son travail, Michel analyse les conséquences des lois Auroux avec le développement du nombre d'émissions, la professionnalisation des intervenants, l'apparition d'un marché de l'expertise, l'apparition de la concurrence, avec la naissance de CCAFI, justement, en 1983, puis de plus petits cabinets. Il parle aussi des relations avec les organisations syndicales, mais aussi avec l'ordre des experts comptables. Il vous en dira plus. Pierre Héritier, lui, intervient dans son texte sur le contexte syndical dans lequel s'est développée l'expertise. Alors, Pierre Héritier est acteur du mouvement Reconstruction au sein de la CFDC, la CFTC, qui va donner naissance plus tard à la CFDT. Et il devient membre de la commission exécutive de la CFDT avant de fonder le Think Tank, je ne sais pas trop bien dire ça, Laser. Voilà. Donc, Pierre nous donne donc une vision du paysage syndical au cours de la période qui précède les lois Auroux, la période de la libération avec l'hégémonie de la CGT, les œuvres sociales du CE qui priment sur les attributions économiques. Donc l'expertise dans cette période-là n'est pas très, très vivante. Ensuite, la naissance de la CFDT en 64 et les idées d'autogestion qui vont soutenir largement ce qui va dans le sens de l'émancipation et donc de l'émancipation des travailleurs et donc de l'expertise. Avec le début ensuite des restructurations, s'engage la bataille pour l'emploi et l'action syndicale qui attend de l'expert comptable des contre-propositions industrielles. Dans la suite de son travail, de son texte, Pierre Héritier commande longuement la période de la gauche au pouvoir, qui rapidement ne répond pas aux attentes. Pour Pierre, les lois Auroux donnent plus de moyens aux organisations syndicales dans l'entreprise, mais pas plus de pouvoir, notamment là où celles-ci sont mises à mal par les restructurations. Bon, Pierre nous livre ensuite la vision syndicale des différentes centrales suite à ce désenchantement et en parallèle la vie syndicale nationale et internationale. Ensuite, l'approche économique est donnée par Bernard Billaudot, qui fait partie des fondateurs de Syndex, qui est économiste, et qui, dans son texte, commence par nous rappeler qu'aucune description n'est intelligible sans le secours d'une grille d'interprétation permettant de lui donner un sens. Et la grille qu'il retient s'inspire de celle de l'école de la régulation dont il est membre. Il apporte ainsi son analyse du changement économique qui a conduit aux transformations des entreprises et à la désindustrialisation, situations qui ont constitué finalement le terrain des analyses des experts pour leurs clients pendant toute la période sous revue. Il analyse l'économie à partir de son concept de monde de production qui conduit à distinguer trois mondes de production pour une nation moderne: le monde de production étatique, le monde de production industrielle, le monde de production marchand, un concept dont sans doute il saura vous expliquer le contenu aujourd'hui. Voilà, donc nous avons aussi, oui, notre travail a porté aussi sur deux aspects différents, ceux-là beaucoup plus centrés sur Syndex. La naissance de l'expertise CHSCT dans Syntex, comment elle s'est organisée, et aussi ce qu'on a appelé le pôle restructuration, c'est-à-dire une structure à l'intérieur de Syntex qui s'est concentrée sur l'accompagnement des salariés au moment de plans sociaux avec une méthodologie propre pour d'accompagnement. Et enfin, ton Pierre est le représentant. Et enfin, notre travail se termine sur ce qu'on a appelé les regards croisés, dont je ne vous dirai pas grand-chose, sinon que c'est le résultat du débat qui n'a pas manqué d'intervenir à la fin de nos travaux quand il s'est agi de se poser la question, finalement, que peut-on dire de cette expertise et de ces années-là ? Là, les points de vue étaient relativement, enfin, sinon différents, on pourrait dire complémentaires. Voilà, donc tout ce travail. Oui, bah, c'est fini. Ce travail a produit un ensemble de textes donc, qui ont été remis aux archives du monde du travail dans le Nord et donc qui sont aujourd'hui livrés à vous tous. Puisqu'il faut faire très, très vite, je remercie bien sûr l'IRES et l'ISST de nous accueillir. J'espère qu'il y aura un débat intéressant et que vos remarques et le débat donnera un éclairage différent à notre travail qui, tout en étant sérieux, ne manque pas de subjectivité sans doute. Donc voilà. Donc je voulais dire aussi que je remercie tout de suite Annette Jobert d'animer la table ronde avec les quatre contributeurs dont je viens parler, Pierre, Michel, Bernard et Henri-José. Et donc aussi, évidemment, Paula Cristofalo d'animer le débat qui va suivre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée.
Merci, Geneviève. Bonne journée.